Radio Vélo en direct sur CETA Radio ce mercredi 11 mai. Bienvenue Julien.
Bonsoir à toutes et à tous.
Également à nos côtés Guillaume.
Bonsoir tout le monde.
Mélanie dans l'équipe. Bienvenue Mélanie. Et puis un invité avec nous en studio, c'est Christophe Bremersch du TOAC pour parler VTT tout à l'heure. Merci Christophe d'être avec nous.
Et merci de m'avoir invité. Bonsoir à tout le monde.
Bienvenue dans Radio Vélo. On parlera avec toi tout à l'heure de la Noble Race VTT 2016, une épreuve de VTT hein, qui aura lieu du côté de Saint-Antonin-Nombleval.
D'où le nom.
22 mai, la Noble Race à Saint-Antonin-Nombleval. Très très jolie commune, bien évidemment. L'un des plus beaux villages de France, Saint-Antonin-Nombleval. L'une des plus belles courses de l'année aussi, le Giro. On va en parler dans quelques instants avec Benjamin que nous avons au téléphone. Benjamin, est-ce que tu nous entends?
Très bien, bonsoir tout le monde.
Voilà, tu auras fort à faire étant donné la concurrence de la présentatrice ligne d'arrivée de Beansport. Benjamin, tu es notre sur la ligne d'arrivée du Giro. Hein. Mais je ne sais pas si vous avez vu qui a succédé à Anne Lorbonnet, mais non. Benjamin, tu as de la concurrence hein, pour parler Giro. Hein.
Ouais, mais je préfère Anne Lorbonnet que celle qui est actuellement.
Ouais, ouais.
Non. Elle a le physique, mais bon, après, pour les interviews, c'est pas trop ça.
Voilà, bon, bref. Sur ce, la chronique Matos, tout à l'heure avec Guillaume de Matos Vélo. Et puis, on présentera aussi la Route du Sud 2016, vu qu'il y avait la présentation hier de la 40e édition. On parlera eh bien, de toutes les étapes, des 5 étapes, vu qu'il y a un chrono qui va se faire le vendredi après-midi.
Le chrono fait son retour.
Le comeback du chrono albigeois.
Du chrono,
ouais, hein, tout le temps des pronos et du chrono. Ouais. et du coup, on en parlera avec l'ami Stéphane Denaitz, un ancien copain de vélo chrono qui nous fait le local de l'étape avec, bien sûr, vous le suivez avec le Twitter Téloche et Vélo tout au long de l'année. Puis, bien évidemment, donc la minute régionale. Bref, de quoi passer une bonne heure, mais commençons par les débats avec nos amis de Vélo Club du Net.
Mesdames, messieurs, chers collègues, la séance est ouverte.
Et oui, le Giro qui est parti tambour battant, on le présentait mercredi dernier, on donnait nos petits pronos et on avait au téléphone Alexandre Géniez. Malheureusement, le Giro est déjà fini pour notre ami ruthénois à cause d'une vilaine chute, également fini pour Jean-Christophe Perrault, un autre coureur que l'on suit de très près, vraiment peut-être les deux meilleures chances françaises sur ce Giro d'Italie. Et bien, au tapis, ça a donc commencé de la plus mauvaise des façons pour les Français, même si au sprint Arnaud Démare n'est pas loin de la mettre au fond. Benjamin, nous t'avons au téléphone ce soir du côté du forum de nos amis de Vélo Club du Net. Ça a forcément réagi ces derniers jours.
Ouais, ça a réagi. Déjà, ça a pas mal râlé puisqu'il y avait ce départ aux Pays-Bas, mais un départ qui est juste financier, quoi, quand on voit la gueule des étapes. La première, bon, c'est un prologue, pas de souci. La deuxième, c'est du plat, bon, très bien. Et puis la troisième, qui est quasiment un aller-retour par rapport à l'étape précédente, et qui se finissait en circuit, et qui en plus a amené ce qu'elle devait amener, c'est-à-dire des chutes. Bon, autant le Tour de France, lorsqu'il va dans un pays, essaie de le mettre en valeur, comme par exemple, on se rappelle au Yorkshire de l'étape supérieurement tracée que gagne Nibali en 2014. Mais bon, là, qu'est-ce que tu veux dire, quoi ? C'est indigne du Giro, ce départ.
Indigne du Giro, les mots sont forts. C'est vrai qu'il n'y avait pas une grande utilité, même si ça a dû ravir Tom Dumoulin, hein, vu que ça s'est bien passé pour lui à la maison. Mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage, Julien. On retiendra pas grand-chose de positif. J'ai pas la ferveur populaire.
Surtout pour ceux qui sont tombés, ils n'entendraient pas... Voilà, après, c'est vrai que l'organisateur aujourd'hui, il a des difficultés sûrement financières, donc il essaie par ce biais-là de combler peut-être certains trous, on ne sait pas, mais après, voilà, c'est comme tu l'as dit, hein, moi je te rejoins un petit peu. Autant un prologue, voilà, un prologue. Ça reste un prologue où qu'il se fasse. Après des étapes qu'on avait là, ouais, est-ce que c'était vraiment la peine de le faire? Après, il faut rentrer en Italie, ça fait déjà un jour de repos au bout de 3-4 étapes. C'est un peu tronqué, ouais, c'est un peu, hein, à mon goût, c'est un petit peu dommage, quoi.
Ouais, et puis pour les suiveurs aussi, j'ai vu que les équipes, bon, les cours après de l'avion, mais les équipes.
Il y a double staff, quoi. Hein.
2000 km en voiture, il y en a qui sont farcis. Et on parle d'un départ au Giro dans quelques années au Japon. Et apparemment, c'est sur les rails, donc. Là, le Japon, ça commence
à sur les rails ou dans les airs, peut-être. Les airs.
Là, ça va devenir
très compliqué.
C'est vrai que l'intérêt est très limité de ce départ aux Pays-Bas.
Mélanie, toi, Honoré Max, les départs étrangers, hein, on n'aime pas ça, mais.
Non, mais c'est vrai que trois jours de course après un jour de repos, c'est pas.
C'est toujours dommage, ouais.
Puis c'est vrai, comme disait Guillaume, les suiveurs, ça leur fait de la fatigue en plus.
Ouais, il fallait des staffs qui soient là-bas sur place, après un staff qui soit là, qui les attend déjà ici. C'est de la logistique en plus, c'est pas simple à gérer, quoi.
Bon, d'autres enseignements, mis à part ça, Benjamin, c'est quoi les débats qui reviennent? Les gros sprinteurs sont là, hein, y a, allez, on va dire, deux têtes d'affiche et demi, peut-être trois.
Ouais, c'est tout,
suivant,
ouais.
Si on compte Arnaud Démare dans les trois. Je mettais demi, je mettais Kittel, je mettais Greipel et Démare qui, quand même, avec son Milan Sanremo, peut être classé au-dessus des Nizzolo, Viviani ou autres Modolo. C'est ça, finalement, Benjamin, aussi, quoi, qu'on retient. Les gros sprinteurs se sont déjà servis, quoi.
Ouais, on retient que Kittel domine de la tête et des épaules ce Giro, parce que bon, les sprints qu'il fait, quoi. Moi, les sprints comme ça, je les fais, c'est devant mon pote Fred qui fait du vélo chaque 36 mois, quoi. Hein. Il se balade un sprint, on a l'impression de voir un junior qui fait la course au milieu de minimes, quoi.
Alors, ouais, mais il se balade, pourquoi il se balade?
Manque de concurrence ou il est au-dessus?
Pour moi, il est au-dessus quand c'est tout plat. Ça commence un peu à monter, là, par contre, oula.
C'est plus compliqué. Aujourd'hui, pas de Kittel. Qu'est-ce qui lui est arrivé, Benjamin, toi qui suis les étapes non-stop, on sait, du matin au soir?
Aujourd'hui, j'ai pas vu une seule image, mais vu le profil, ça a monté un peu.
Ouais.
Et malheureusement, Kittel, pour lui, dès que ça grimpe un peu, ce n'est pas ça du tout.
C'est plus compliqué de suite. Ah, Arnaud Démare, dans le coup, hein. Il est pas mal.
Ouais, alors ça discutait pas mal sur le forum. C'est dommage qu'il se plaçait pas assez bien parce qu'il était vraiment fort. Il fait également surprendre sur la première étape en ligne, sur un ralentissement qui lance le sprint et il n'arrivera jamais à rattraper la demi-roue, quoi, qu'il prend sur le démarrage. Mais non, on démarre. En plus, on en avait discuté la semaine dernière. Il reprend, c'est sa reprise, puisqu'il n'avait pas couru depuis le Tour des Flandres.
Oui.
Très bien ce qu'il fait. Et en plus, on voit qu'il semble sur les méta volantes. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle en Italie.
On t'a quoi pris?
Il fait les sprints. Donc, est-ce qu'il vise le maillot à poids?
Peut-être intéressant. Kittel, ouais, à quasiment 4 minutes aujourd'hui, c'était trop difficile pour lui. Le fils Zabel, Rick Zabel, oui. Quasiment dans le top 6, ouais, ça c'est pas mal.
Est-ce qu'il peut-être vise le maillot sprinter, c'est possible. Après, peut-être qu'il parfait sa préparation en faisant ses sprints intermédiaires où il va, mine de rien, faire du travail spécifique sur ses sprints pour justement parfaire sa condition et peut-être combler le déficit qui lui manque, parce que bon, c'est vrai que sur la photo de l'arrivée qu'on voit, bon, il est loin.
Arnaud Démare. Je pense que vraiment, Julien, qu'il a ses chances pour gagner le maillot de meilleur sprinter.
Oui, il a ses chances.
Parce que de Greipel, bon, avait loupé les premières sprints. Kittel, qui dit qu'il va finir le Giro? Est-ce qu'il est là pour finir le Giro? On a déjà lu par-ci, par-là, que Cancellara était loin d'avoir calculé qu'il allait finir le Giro. Il y a des coureurs, ils viennent, ils savent qu'ils ne vont pas le finir. Kittel, peut-être qu'il va le finir, mais on voit que dès qu'il y a des difficultés, il ne marquera pas de points. Là, on l'a vu aujourd'hui, il finit à 4 minutes, démarre deuxième, bam, quand même, Kittel a gagné. Deuxième aussi,
il
peut gagner le maillot de meilleur sprinter, et je pense que ça peut être intéressant pour lui, pour sa carrière. Hein,
ça peut être intéressant, et surtout, ça va sûrement le mettre en confiance. Là, on est qu'au début de la première semaine. Voilà, il fait deux fois deuxième. S'il sent que la condition va arriver, ce que je pense, qu'il arrive avec de la fraîcheur, certes, il a coupé un petit moment, mais ouais, je pense qu'il faut lui laisser un petit peu le temps, un petit peu de mettre en route. Il se prépare tranquillement. On devrait le revoir devant.
On devrait le revoir devant. Hier, très belle étape. On était lundi hier. Très mouvementé. Une finale de classique. Eh, on était mardi hier. Ouais, j'ai encore loupé le jour. Mardi, c'est ça qui te faisait rigoler, Mélanie? D'accord, ouais, ben les jours passent trop vite. Diego Ulissi, ouais, le revenant qui claque sa cinquième étape sur le Tour d'Italie, était revenu d'une suspension plus ou moins suspendue. Mais en tout cas, Diego Ulissi, c'est un gars qui anime les étapes du Giro et c'est comme ça qu'on les aime, Benjamin.
Ouais, alors hier, c'était vraiment superbe l'étape.
Quel spectacle!
Magnifique et que de spectacle en effet avec les deux AG2R, pardon, Axel Domon et Guillaume Bonafont qui partent en duo, puis ensuite le groupe où il y a Ulissi justement qui est superbement amené par son coéquipier Conti, qui a résisté au retour de notamment Tom Dumoulin et Chris Weiss, pardon.
Oui.
Non, c'était vraiment sympa, il y a eu du mouvement, il y avait des petits murs, des petits cols, c'était vraiment sympa et c'est vraiment la plus belle étape et de loin depuis le début de Giro qui sinon est un peu fade.
Ouais, mais ça va venir Benjamin, ne mets pas trop de bémol à ce Giro là, on dirait que tu as ton bâton. On dirait qu'il a son bâton de saucisson et sa baguette de pain pour dire qu'il n'y a que le Tour de France qui compte. Je l'ai vu la semaine dernière. Tom Dumoulin, ouais, qui a récupéré sa tunique. Landa qui l'a eu un peu dur du côté favori, mais ouais. Comment, Benjamin?
Je disais, j'ai pris un petit coup au moral après l'abandon de Géniez et Perrault.
Ah bah il y a de quoi, parce qu'Alexandre Géniez avait vraiment de quoi faire quelque chose. Ça fait partie des sujets qui ont été beaucoup abordés sur le forum.
Oui, ben beaucoup disent, ben ça va être bien pour Pinot parce que Géniez va être super frais pour le Tour de France. Donc
c'est sûr.
En montagne, il va récupérer un coéquipier au top, quoi.
C'est sûr qu'il faut le voir comme ça, mais bon, pas évident pour Géniez qui c'est vraiment le grand rendez-vous où il avait carte blanche. Donc
parce que c'est pas mal pour un bien, c'est pas
un mal pour un bien. Peut-être qu'on le reverra sur le Tour d'Espagne. On l'a pas revu depuis qu'il a gagné son étape. C'était en 2013 si ma mémoire est bonne. D'autres sujets, les favoris, pas grand chose à dire. Petite alerte hier pour Landa, mais sinon ils sont là.
Ouais, pour le moment, on n'en parle pas des favoris. Pour le moment, ce qui anime un peu plus les discussions, c'est l'Aurig. Alors, qu'est-ce que l'Aurig? C'est le Giro à l'envers. C'est pour savoir qui c'est qui va finir dernier. Et pour le moment, il y a une superbe lutte entre Matteo Pellucci et Cheng Ji de la Team Giant. Donc, c'est surtout, c'est drôle, mais c'est surtout sur ça que ça débat en ce moment. Pour savoir quel coureur va pouvoir terminer dernier de ce Giro.
Ils ont déjà pris 38 ou 40 minutes.
Je ne connais pas la Xiang Jing, 28 ans. Ah oui, il était déjà dans la team Skill Shimano depuis un bout de temps, ouais, comme quoi. Hein. C'est bien, bon. C'est super intéressant ce que vous faites, Benjamin, là, sur le forum. Hein. C'est bien.
Il y a de tout. Hein.
D'autres infos?
Pour le Giro, non.
Non, pour le Giro, on était complet. Tour de table. On a un invité qui est Christophe Bremerge du TOA, qu'on en parlait tout à l'heure pour le VTT, qui suit de près Jean-Christophe Perrault, c'est ça? Et t'étais déçu, tu nous disais tout à l'heure.
Oui, parce que c'est un ami et on a démarré le VTT ensemble. Et bon, des gamelles, il en a pris beaucoup sur la route. Je pense qu'il a dû plus se faire mal sur la route qu'en VTT. Oui. Et quand on voit la gamelle qu'il a prise là l'autre jour, en plus il était vraiment placé devant justement pour éviter les risques de chute et tout ça. Quand on voit cette gamelle, il peut rien faire, mais ça fait mal quoi.
Ça doit faire mal au moral. Jean-Christophe Perrault l'avait déjà vu en souffrance sur plusieurs Tours de France, notamment le dernier. Qu'est-ce que ça veut dire? Il devait faire le Giro et pas le Tour. Est-ce que ça peut changer de ce côté-là?
On sait que c'est les dernières années et bon, on sait que c'est pas facile.
Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être un autre grand tour pour Jean-Christophe Perrault qui n'aura pas eu l'occasion de faire le Tour d'Italie. C'est compliqué.
Je doute qu'il fasse le Tour de France. Après, j'en sais rien.
Je pense pas qu'il avait envie de le refaire.
Hein. Ouais. Donc après, est-ce que ses plans vont changer? Après, il faut laisser, je pense, quelques jours pour qu'il se remette de sa blessure. Mais je doute qu'il fasse le Tour de France quand même. Je pense que c'est vraiment sa dernière année. Il va s'arrêter.
Son avis, Christophe, aussi, tu ne dois pas refaire le Tour.
Je pense pas, mais bon, après, ça dépend peut-être pas que de lui.
Et puis, oui, son équipe va sûrement insister. Mais...
Voilà. Il doit faire les Jeux Olympiques aussi, il aurait aimé faire. Donc, qu'est-ce qu'il va
VTT
faire
en VTT aussi
en route.
Ouais, en route.
Donc, qu'est-ce qu'il va faire pour se préparer pour les JO?
Du coup, il est à l'arrêt, donc il ne veut pas courir. Donc, est-ce qu'il va reporter son programme? Voilà, c'est
à suivre dans les prochains jours. Guillaume?
Oui, je vais juste une info sur le Giro. On parlait la semaine dernière de la neige, de la montagne, etc. Il y a notamment le col de la Bonnette. J'ai appris, ils étaient en train de déneiger et puis aujourd'hui ils ont arrêté parce qu'il est tombé 50 cm de neige. Donc après il reste 15 jours avant qu'ils y arrivent.
Mais on est bon.
Mais voilà, c'est pour l'instant c'était toujours pas accessible. Donc le Giro, on sait pas encore ce que ça va donner au niveau des étapes de montagne. Ça risque encore d'être amputé.
Bon, on va suivre ça de très près. Benjamin, tu voulais rajouter quelque chose?
Oui, si ce n'est pour le Giro, que demain, je pense que ça va arriver à 20 ou 30, c'est la première arrivée au sommet. Sinon, on va parler peut-être du succès, même si Mirani risque d'en reparler, de Guillaume Gaboriau sur le Grand Prix de Nogent sur Oise, si je ne me trompe pas.
Oui, c'est ça, Nogent sur Oise,
tout à fait.
Du côté du cyclisme amateur, oui.
Ouais, donc c'est une Coupe de France DN1, et sur Vélo Club, ça n'a pas fait pareil, puisque celui qui avait gagné l'an dernier, c'est Robin Stenuit qu'on a eu au téléphone à Radio Vélo quelques semaines, et qui est également un membre de VéloClub.net. Donc VéloClub.net, ça fait 2 ans qu'on rapporte cette épreuve. On espère une 3e victoire l'an prochain.
Ouais, mais en même temps, vous recrutez tout le monde, donc vous êtes sûr de tout gagner. Quoi.
Mais voilà, donc ouais, super victoire. Il était content parce qu'il a eu quelques semaines difficiles avec un décès dans la famille. Des sensations qui n'étaient pas top, et là il me disait qu'il revenait vraiment très très fort avec des sensations comme il n'en avait jamais eu. Donc
ouais,
ça va continuer.
Je lui ai dit que le tour du Jura lui avait fait du bien, il m'a confirmé, donc ça va.
Ouais, il a bien galéré, mais je pense que là il a touché les bénéfices.
Bon, mais en tout cas, on va continuer à suivre cette progression. On parlera de la présentation de la Route du Sud tout à l'heure avec Stéphane Denaitz, l'un de nos invités. Guillaume, tu n'es pas Guillaume, tu es Benjamin. Tu voulais rajouter quelque chose quand même sur la Route du Sud, un petit clin d'œil?
Ouais, un très beau parcours avec le retour du contre-la-montre. Un contre-la-montre qui a 2 bosses, si je ne me trompe pas, une étape qui finit à Albi avec des petits cols en début d'étape, une superbe étape de montagne avec l'approche du Tourmalet qui va être très 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 dure, une arrivée inédite au sommet, et pour finir une étape un circuit assez dur, même peut-être très dur, dans le Gers, je crois. Non, vraiment une superbe édition qui s'annonce avec un très très beau parcours.
Bon, on en reparlera bien évidemment tout à l'heure avec Stéphane. On débute la chronique matos. Julien, si tu veux bien, on la continuera après. Mais un peu de discipline dans cette émission. Guillaume, tu restes avec nous. Décidément, je t'ai.
Alors lui, c'est toujours Benjamin.
Benjamin, reste avec nous deux minutes, ouais.
Ok.
Alors, la chronique matos, Guillaume, tu avais des infos concernant les amateurs, concernant le Giro, non?
Alors, si. Ah, le jingle.
La chronique matos, alors Guillaume.
Alors, on va commencer par le Giro où on a vu Filippo Pazzato avec un nouveau Villiers. Alors c'est pas un prototype, c'est le prochain Villiers Cento 10R. C'est donc leur vélo aérodynamique. C'est une première, je pense, qu'une marque lance un vélo, le fait rouler pour une première fois sur le Giro. Alors, en général, c'est plutôt le Dauphiné, le Tour. Et bon, là, c'est une marque italienne et le prochain Villiers déjà entre les jambes de Filippo Pozzato. Ensuite, Marc Simoncini, est-ce que vous connaissez autour de la table? Je suis même pas sûr.
Qui?
Marc Simoncini. Ça n'a rien à voir avec le vélo.
J'ai déjà entendu ce nom, mais je sais pas si c'est.
Alors, bien. C'est le patron de Mythic. Entre autres.
Non, je suis jamais allé. Non.
Voilà. Et qui a lancé aujourd'hui une nouvelle marque de vélo qu'il a appelée Héroïne.
D'accord.
Sans E à la fin.
Ouais. Ça marche au début.
Voilà. Ou... avec l'ancien, celui qui distribuait CKT en France, Rémi Chenu. Donc, ils ont lancé une nouvelle marque de vélo en très haut de gamme. Il y a un seul vélo pour l'instant. 349 exemplaires, 15 000 euros. Donc voilà, c'est.
Mais quel est le rapport avec son activité d'origine?
Aucun, apparemment. Il veut se faire plaisir. Je ne sais pas s'il veut se faire plaisir ou s'il a vu qu'il y avait de l'argent à se faire.
La particularité du vélo qui vaut 15 000 balles
Alors, il est fabriqué en Italie à la main.
Et bien, il y a des numéros de téléphone dessus.
Fabriqué à la main, développé en France. Et sur le cadre, ils ont mis des alvéoles comme sur les balles de golf ou les roues zip. Pour qu'il soit plus aérodynamique. Alors, je ne sais pas ce que ça donne, Je ne le saurai jamais parce que impossible de tester. J'ai demandé. La seule façon de le tester, c'est d'aller au showroom à Paris et on peut le tester que sur un home trainer.
D'accord.
Donc, oui, c'est sûr. C'est pr-
et pour
c'est
moi,
pratique, quoi.
Gros problème, c'est que ce vélo ne sera en vente que par internet. Donc j'ai du mal à voir en tout cas des coursiers acheter un tel vélo parce que mettre 15 000 euros sans pouvoir rouler avec le vélo ou autre. Donc je pense que c'est plus un objet de luxe, on va dire. Pour ceux qui ont trop de sous, qui ne savent pas quoi en faire et qui ne veulent pas trop faire de vélo et peut-être le mettre dans le salon. Donc, mais voilà, ouais. Ça fait une nouvelle marque, on va dire française entre guillemets.
Ouais. Intéressant, belle anecdote ça. Ça va être repris, je sens déjà sur les réseaux sociaux demain matin. On va avoir quelques petits clins d'œil.
Déjà, pour la petite histoire, il y a eu une présentation il y a un ou deux jours avec de nombreux journalistes. Aucun journaliste de la presse spécialisée cyclisme. C'était que des journalistes VSD, GQ, etc. People. Donc voilà, on voit que c'est pas orienté pour les sportifs. Et enfin, tu parlais tout à l'heure des amateurs. J'avais. Quand les disques ont été pas interdits, le test des disques a été suspendu par l'UCI, la FFC a bien redit les disques sont interdits dans les courses FFC parce que le règlement UCI s'applique
en route.
Et c'est là que j'ai regardé le règlement UCI et notamment il y a des roues qui sont homologuées maintenant, à part les roues alu qui font moins de 20 mm de haut, etc., qui sont homologuées on va dire par défaut. Toutes les roues carbone, par exemple, doivent être homologuées. Donc, la plupart des grandes marques, Campagnolo, etc., sont homologuées. Mais les roues artisanales ne sont pas homologuées. Et ce règlement s'applique aussi aux coureurs amateurs FFC. Donc, pour l'instant, il n'y a aucun commissaire qui contrôle ni le poids du vélo, ni si les roues sont homologuées. Mais rien n'empêcherait un jour un commissaire d'interdire le départ ou de disqualifier un coureur à l'arrivée parce qu'il n'aurait pas des roues homologuées ou un vélo inférieur à 6,8 kg.
Et alors, est-ce que pour le cas des vélos, parce que bon, le cas des roues, on sait très bien que les roues qui viennent de Chine en carbone, qui sont voilà, pas forcément homologuées, on a aussi des cadres aussi qui sont dans ce même cas-là, en fait.
Ouais, alors les cadres, il y a la FFC ne précise pas qu'ils doivent être homologués UCI. Par contre, ils doivent rentrer, on va dire, dans les normes UCI, voilà, au niveau de la taille des tubes, etc. Mais les cadres, en fait, n'ont pas à être spécialement homologués. Donc
moi, je parle plus dans le fait parce que les roues, c'est en 4 cases, et les cadres, c'est pareil. Aujourd'hui, on voit des cadres qui cassent, qui ne sont pas forcément de la marque du constructeur. Quoi.
Donc, pour les cadres, non. Il y a juste qu'ils doivent respecter les normes, on va dire, au niveau des tailles des tubes, etc. Donc là, il n'y a pas d'obligation d'avoir un cadre homologué. Par contre, les roues, oui. Et je publierai ce soir la liste sur mon site. Il y a deux listes en plus pour compliquer les choses de roues homologuées par l'UCI. Mais voilà, c'est à savoir pour les coureurs. Rien n'interdirait un jour un commissaire de disqualifier un coureur parce qu'il aurait des roues artisanales, pourtant qui seraient très bonnes. Mais s'ils veulent appliquer le règlement bêtement, après, je pense qu'il y a beaucoup de points du règlement FFC qui sont pas spécialement appliqués. Mais
Non, mais moi je me souviens l'an dernier, j'avais entendu dire qu'il y a un coureur qui n'avait pas pu partir parce qu'il n'avait pas des roues homologuées. Donc je sais plus du tout, le contexte, mais c'était arrivé. On avait discuté au comité et pour vérifier en fait, et ouais c'était effectivement dans le règlement.
Donc voilà, messieurs les coureurs, sachez-le. Donc il y a au moins eu un cas. Voilà. Ce soir, je publierai la liste sur mon site matosvelo.fr des roues homologuées. Mais voilà, sachez-le, donc il y a déjà eu un cas, c'est pas interdit qu'il y ait un autre cas qui se présente. Donc, au moins, si vous avez des roues qui sont pas homologuées, amenez toujours avec vous peut-être une paire de roues à l'U de rechange qui, elles, sont homologuées. Au moins que vous puissiez prendre le départ. Donc voilà.
Bon, Benjamin, tu voulais rajouter quelque chose à propos de Guillaume ?
Non.
Impeccable. On a bien fait de te garder 10 minutes de plus. merci Benjamin d'être passé dans Radio Vélo, on se dit à très vite.
Eh oui, à bientôt.
À bientôt. Ciao. Merci Guillaume pour cette chronique Matos. Comme d'habitude, on te retrouve sur Matos Vélo avec la liste de ce qui est homologué. Du coup, pour ce sujet-là, on va faire la petite coupure. Mélanie est morte de rire ce soir.
Je suis pas sûre.
Parce qu'elle est un peu surmenée. Là,
la forme.
On se retrouve juste après.
C'est ta radio.
Pop. Rock. Sport. Le top. Quand on sent l'air au travers du maillot, en roue libre et bien sûr sans les freins. Carla retourne, Carla retourne, retourne là.
tourne la... De retour dans Radio Vélo, et c'est l'heure de parler de la route du Sud. Et pour cela, nous avons notre ami Stéphane Denaitz, un ancien compère de Vélo Chrono que vous suivez tout au long de l'année sur Twitter. Le Twitter Téloche et Vélo, c'est lui qui donne les programmes de là où vous pouvez voir toutes les courses. Et ça, c'est pas toujours évident, donc il fait le travail de repérage pour nous. Stéphane, est-ce que tu nous entends?
Je suis là. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes.
Bienvenue en direct dans Radio Vélo. Stéphane, et oui, qui connaît bien les routes gersoises où vont passer notamment la route du Sud le dimanche 19 juin, route du Sud.
On avait fait, nous, un contre-la-montre par équipe sur Clermont-Pouilly-Est et je peux te garantir que c'est très difficile.
C'est avec quelle épreuve?
Ah ouais, là, c'était un championnat régional Midi-Pyrénées de contre-la-montre et on l'avait fait sur ce site là-bas et c'était très dur.
40e édition donc de la route du Sud du 16 au 19 juin. La première étape, on le savait, partira de Saint-Pons-de-Thomières à direction Bessières, à deux pas du studio Radio Vélo dans le nord toulousain. Saint-Pierre-de-Trévisy jusqu'à Albi le vendredi et l'après-midi, un chrono de 13 km 400 autour d'Albi le séquestre. Ça, c'est une attraction aussi.
C'est le circuit que
qu'a emprunté le
champion de France de l'avenir avec les
Ah oui. Il est pas facile.
Ah, il est pas facile du tout, mais les
dents, c'est pas gagné.
C'est pas pour rouleurs. Là, hein,
donc ça très intéressant aussi. Saint-Gaudens, Val d'Azun, Coudac, Couraduc, pardon. Ça sera la grande découverte. Et on sait que la route du Sud est la course qui repère un petit peu pour le Tour de France. Donc ça va peut-être vouloir dire pas mal de choses. Mélanie, t'as eu des infos par rapport à ça?
Non. Hier, j'ai essayé de discuter un peu avec Pierre Cobin à propos de ce col, mais il était très très pris. Donc c'est vrai que
bon, on l'aura pour présenter bien sûr l'épreuve, mais il y a un passage par le Tourmalet. Stéphane, tu connais un petit peu cette étape aussi? Avant, hein.
Oui, je connais bien là-bas. C'est vrai que le Tourmalet va être monté côté Lamangie, donc c'est vrai que c'est une montée difficile. Enfin, tous les coureurs le disent, le savent, et il y en a beaucoup qui connaissent. Et puis c'est surtout après la fin aussi, il ne faut pas oublier qu'on va passer par le col de Bordère et après ça finit sur Val d'Azun. En fait, pour situer, c'est les contreforts du Soulor, c'est dans ce coin-là. Et c'est vrai que c'est assez difficile. Le col de Bordère, c'est assez réputé pour les cyclos, c'est assez long, c'est irrégulier. Et après, il y a la montée sur Val d'Azun, il faut finir de monter. Alors c'est une vraie, vraie belle étape de montagne, hein. C'est un niveau Tour de France sans difficulté.
Ouais, je confirme. C'est pas parce qu'il y a que le Tourmalet que c'était pas forcément dur, mais regardez bien le profil de l'étape et là où ça passe, vous vous rendrez compte que, comme il le dit Steph, ça sera une sacrée étape de montagne. On va vraiment se régaler, il va y avoir du spectacle cette étape-là.
Autour de la table, d'autres réactions sur cette étape de montagne? Non, Guillaume, ça te parle pas plus que ça?
Si, ça me parle, parce que bah, c'est vrai que j'ai déjà monté Val-Louron, tout ça dans ces coins-là, et c'est vrai que le Tourmalet, on va dire, ça va être une mise en bouche, mais après le reste est très compliqué. Ça va sans doute être une étape très animée, et bah, les grimpeurs vont s'en donner un cœur joie.
Très intéressant à suivre, ouais, Julien.
Non, et puis après il y a l'étape du dimanche, hein, qui est certes un circuit de 155 bornes, mais pas forcément facile avec l'étape de la veille.
Avec
je pense qu'on va avoir une belle route du Sud cette année. Quoi.
Le conseil départemental du Gers qui se mobilise encore une fois. C'est vrai qu'il y a plusieurs. Il y a le conseil départemental du Tarn qui est toujours à fond hein, la route du Sud. On le sait avec des passages réguliers, mais là, le Gers ça fait maintenant quelques années et là ça va être une étape 100% gersoise comme il y en a déjà eu. On se souvient aussi, donc ça nous avait marqué en 2013, je crois, ou 2012-2013, la victoire d'Arnaud Démare dans un petit village du Gers. Je ne sais pas si tu avais vu ça, Mélanie, c'était exceptionnel avec après les cérémonies d'après course dans la cour de l'école. Enfin, c'était pas loin de Castelnau-Magnouac, tout ça. Là. Enfin, c'est super.
Dans mes souvenirs,
Saint-Michel peut-être.
Saint-Michel.
Et non, c'est toujours des moments exceptionnels. Alors là, Stéphane, tu es le local de l'étape, vu que ce sont les routes de ton enfance ou de tes entraînements. Gers, Astarac-Arros, Sangascogne, Clermont, Pouilly-Guies, Quézaco.
Alors Clermont-Pouilly-Guies, pour faire simple, c'est un petit village où il n'y a pas 150 habitants. Donc voilà, donc en fait ça fait vraiment un contexte assez particulier pour une course professionnelle. C'est vrai que c'est un tout petit village, on le traverse en quelques secondes. Et donc ils ont tracé un circuit de mémoire, je crois que c'est un circuit de 18 km qui va tourner autour de Clermont-Pouguiès avec deux bosses en fait à parcourir, le circuit donc à parcourir 8 fois. Donc en fait il y a deux côtes donc en fait qui sont très différentes l'une et l'autre. La première, ça va être juste en début de circuit, c'est une côte mais plutôt à tendance faux plat aux
alentours de
5%, qui est longue, donc à monter en cyclo comme ça tranquille, ça se fait bien. Par contre niveau course professionnelle, ça risque de faire sacrément mal. Après, on repart sur une portion de vallée, et puis après, on a la côte, ce qu'on appelle la côte de Montcassin. Donc, pour l'anecdote, une côte de Montcassin avec le sprinter, c'est assez sympa. Par contre, qui est beaucoup plus courte et beaucoup plus sèche. Et après, on replonge sur le village de Clermont-Bouguillès, et c'est vraiment un circuit, quasiment tout le temps en prise, parce qu'après, comme dit Jacques Durand, les portions de plat, c'est du mal plat, c'est, ça monte, ça descend, des petits faux plats, et c'est sans arrêt, ça va être un tourniquet incessant toute la journée, quoi.
Ouais, ça t'a surpris, toi, cette annonce, ou t'étais un peu dans la confidence, Stéphane?
Alors, je savais que la course allait se dérouler dans ce petit village. Alors, c'est vrai que, par contre, je connaissais pas le circuit. Et bon, c'est vrai que, par contre, ça va être du grand, grand spectacle. Alors, moi, ce que je vois comme profil de course, bon, j'imagine que pour le général, sauf si c'est très, très proche, après l'étape de montagne, ce que je ne pense pas, ça devrait pas bouger pour le général. Par contre, au niveau, chercher le gain de la victoire d'étape, ça va être très très animé. Et ce que j'ai remarqué en fait surtout, c'est que c'est une super répétition en fait une semaine avant les championnats de France, parce que le circuit est pas copie conforme, mais presque. En fait, c'est celui des championnats de France va être un poil plus court à quelques kilomètres près, mais le profil est assez similaire avec deux côtes. Et c'est vrai que pour les coureurs qui vont vouloir commencer à se préparer pour l'événement, en fait, c'est vraiment très 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 similaire.
Et en plus, je vois aussi le contre-la-montre difficile. C'est intéressant aussi pour les championnats de France. Du coup.
Oui, exactement. Oui, non, c'est vrai que là, franchement, la Route du Sud, c'est vrai que la Route du Sud a ce mérite-là d'innover tous les ans, de proposer des parcours différents, des villes départ et des villes d'arrivée différentes, des circuits différents avec des innovations. C'est vrai que les courses en circuit comme ça, c'est assez rare sur des courses par étapes, surtout des courses de ce niveau, quoi. Non, c'est vrai que ça va faire quelque chose de très très sympa. J'ai vu après les équipes engagées, ça va être surtout des équipes, la plupart des équipes françaises, et puis après, je crois qu'il y a les Carraroural, les Movistar et les Gazprom pour les équipes principales. Non, ça va faire quelque chose de sympa, franchement sympa.
De très sympa, avec un plateau qui devrait l'être. Mélanie, tu as entendu d'autres confidences, toi qui étais aussi, entre autres, avec tes multiples casquettes, l'œil de Radio Vélo à la présentation hier.
Non, moi déjà, je suis très contente parce qu'il y a une étape chez moi, donc à Saint-Pierre-de-Trévisy. Et donc, en fait, les coureurs vont remonter sur le Masnou-Massuguès. Enfin, tu sais, c'est un peu le parcours de l'Épinoise. Voilà, donc avec le petit Tourmalet, nous on l'appelle comme ça chez nous. Et donc, c'est assez vallonné, c'est bien tortueux comme route, et c'est vrai que pour une étape courte de 91 km, je pense que ça va être plutôt animé.
Ouais, ça va être une étape vachement animée. Ouais. Puis après, l'après-midi, il y a le chrono qui n'est pas facile. Il y a certaines journées, la veille d'une étape de montagne, ça va peser, ça.
Voilà. Et autre info, donc ils ont annoncé Valverde, peut-être Quintana.
Ouais.
Donc après, bon, sur le Twitter de la Route du Sud, on a vu aussi Nasser Boigny. On espère qu'il y aura Stéphane Pouyès.
Ah, voilà, je pense qu'il le louperait pour rien au monde.
Autre coureur de l'armée de terre qui je pense serait intéressé pour venir, c'est Bruno Armirail, qui avait fait deuxième ou troisième, je crois, au championnat de France de l'avenir sur le contre-la-montre.
Ah ouais.
Donc le parcours, il le connaît. Et
ah, c'est son parcours.
Voilà. Donc voilà, on espère voir quelques régionaux.
Bien évidemment, ouais, les Julien Loubet, Quentin Paché, s'il y a le Team Marseille, j'ai pas regardé en détail,
sûr, ouais.
Delco, ça va être bien évidemment très très intéressant. Christophe, tu avais d'autres, tu avais un petit écho, toi, une sensation par rapport à ce parcours de la Route du Sud?
Non, pas
ça
vraiment.
Ça fait saliver, en tout cas.
Oui, ça a l'air intéressant après ce que vous dites là. Donc, on va regarder ça de près.
On va se régaler. Bah,
ce qui est bien, quoi, c'est qu'ils ont, rajouté sur ce qu'il y avait déjà auparavant, ce fameux contre-la-montre. Par le passé, ils avaient fait la montée de Cambasque en montée chronométrée. Voilà, il y a toujours eu ces contre-la-montre, ces cinq étapes-là. Et c'est bien qu'ils ont mettent ça en place parce que, voilà, c'est pour moi, une bonne préparation en une semaine des championnats de France, et sur un circuit comme on aura là, sur le circuit d'Albi, on verra vraiment les hommes qui seront vraiment en forme. C'est ça qui est intéressant.
40e Route du Sud qui s'annonce exceptionnel et qui sera dédié à Francis Auriac, le créateur de l'épreuve, bien évidemment. Tous les regards étaient tournés vers lui. Stéphane, tu avais d'autres anecdotes, d'autres centres d'intérêt à annoncer pour cette Route du Sud ?
Ben pour la Route du Sud, justement, enfin, il faut préciser, parce que là, on en a quand même bien parlé en bien, et ça a certainement dû mettre l'eau à la bouche à pas mal de monde.
Ouais, parlons-en un peu en mal, Stéphane. Parlons-en en mal un peu, là.
Ah non, mais de toute façon, on ne peut jamais dire du mal au niveau de la Route du Sud, ça.
Ah, ouais, d'accord.
Mais on pourra la suivre sur Eurosport, en fait. Déjà, l'année dernière, ça avait été le cas. En plus, on s'était vraiment régalé. Je me rappelle de l'étape du port de Balès avec Contador, Quintana et Latour.
Ouais.
Et en fait, Eurosport met vraiment une belle exposition sur la course. Les étapes, c'est pas des petites retranchements d'une demi-heure, non, ça dure un bon moment, c'est facilement deux heures, bien couvert, bien filmé, non, on va pouvoir vraiment en profiter, ça sera sympa.
De mémoire, c'est signé avec Eurosport jusqu'en 2020. Si
c'était trois ans, non?
Oui, je crois que c'est ça,
ouais. Ouais. Donc c'est vrai que c'est l'avantage, c'est qu'on va se régaler et avoir de belles étapes.
De belles étapes.
C'est vrai que c'est une course qui mérite vraiment une exposition, parce que c'est vrai que des courses de ce niveau dans les massifs en France, il y en a assez peu, parce que c'est vrai qu'à part la Route du Sud et le Tour de l'Ain, je vois pas trop de courses professionnelles dans les deux grands massifs, aussi bien les Alpes que les Pyrénées, bon, hormis les courses type Critérium de Dauphiné, Paris-Nice, tout ça. Et voilà, non, mais c'est vrai que c'est l'occasion de l'avoir. C'est vrai que c'est une course moi je trouve que c'est un petit peu renouvelé depuis quelques années. C'est vrai que la Route du Sud, on en parlait régulièrement, mais c'est vrai que depuis quelques temps, là, surtout depuis qu'il y a une exposition télévisuelle plus approfondie, non, c'est vrai que la Route du Sud, elle a repris un peu de poids de la bête. Et je pense qu'elle risque de grossir dans les quelques années, parce que c'est vrai qu'en préparation du Tour. Sortir du Tour de Suisse, après pour les pros, il y a plus de courses en fait entre le Tour de Suisse et le Championnat de France. Et après le Tour, là, c'est une des seules grosses courses qu'il y a à cette période de l'année en plus. Donc.
Ça promet en tout cas, il y a tous les ingrédients encore une fois pour que la Route du Sud se passe bien sur ça, bien évidemment, avec intérêt. On vous tiendra au courant si Radio Vélo fait quelque chose. Stéphane, pour l'actualité, tu voulais rajouter quelque chose peut-être? Qu'est-ce qui occupe tes pensées cyclistes en ce moment? Parce que vu que tu tiens bien le Twitter, t'es là chez Vélo, mais tu ne peux plus faire d'envolée lyrique sur Vélo Chrono, alors comment tu fais?
Ah ben je manque de temps, ben c'est vrai que voilà, ben c'est vrai qu'après je me suis pas relancé dans notre projet. Bon après du coup j'ai laissé le vélo à la main, je le fais avec les jambes, donc je roule, je participe à des cyclosportives, et puis après tiens un jour t'es là chez Vélo. Non, c'est vrai qu'en ce moment c'est le Tour d'Italie qui occupe ouais. L'actualité. Bon j'ai écouté vos avis en début d'émission. C'est vrai que pour l'instant, c'est assez tranquille. C'est vrai que au début, au Pays-Bas, c'était franchement fade. Pour pas dire, voilà, il se passait pas grand chose. Hier, oui. C'était plutôt sympa. Même cet après-midi, c'est vrai que quand on retrouve l'Italie, de suite, autour d'Italie, on voit que c'est autre chose, quoi.
Ouais, du coup, ce Giro, bon, nous, on attendait, c'est vrai, des performances, notamment d'Alexandre Géniez. Malheureusement, ça pourra pas être le cas. Est-ce qu'il y a un coureur que tu vas suivre particulièrement, toi?
Bah, démarre, c'est vrai que j'attendais un peu aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il m'a un peu déçu, parce que c'est vrai qu'on voyait aujourd'hui, on a senti qu'il, comme s'il y avait eu un blocage au moment de lancer le sprint, j'étais assez surpris. Et c'est vrai qu'après, je vois pas trop de gros favoris. Je pense que Nibali, Valverde sont un poil au-dessus, mais c'est vrai que c'est assez fou. On a un peu de mal à dégager des favoris ou une tendance ou quoi. Pour l'instant, c'est un peu l'impression que tout le monde joue un peu au poker menteur. C'est assez
tout le monde se cache un peu là. Hein.
Assez fou, assez difficile de lire quelque chose pour l'instant. De toute façon, on verra demain. Déjà la première étape, on verra un peu comment ça se passe. Mais je pense que le premier gros tournant, ça sera dimanche le chrono qui a pas l'air simple en plus. Là, on commencera à y voir un petit peu plus clair. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'il faut prendre vraiment les choses les unes après les autres, parce qu'il n'y a aucune tendance qui se dégage. Donc, voilà.
Attention, Stéphane, il y a Guillaume, il va te demander quelle roue tu as ou un truc comme ça.
Non, même pas, c'est même pas une question, mais c'était pour démarrer aujourd'hui. Il me semble avoir vu que Delage, qui lui lançait le sprint, avait déchaussé. Juste pendant le.
Je n'ai pas dit s'il avait déchaussé, mais j'ai vu qu'il avait un problème mécanique. Pour moi, j'ai pensé à un saut de chaîne ou un truc comme ça, et c'est vrai qu'on a vu de suite qu'il était dans son effort. Alors, déchaussé, je pourrais pas dire. Ouais. J'ai pas bien vu.
Je crois que c'est la FDJ qui me semble qu'il a mis sur Twitter, donc il aurait déchaussé, donc automatiquement ça coupe l'élan.
Oui,
c'est une des explications, en tout cas pour aujourd'hui.
D'accord, ok. Moi, j'ai vu des lages clairement qui étaient bloqués. Des mares, après, on sentait que, ouais, qu'il manquait quelque chose. Mais c'est vrai que dans un sprint, c'est pas forcément évident de voir avec les coureurs qui peuvent cacher les autres. C'est vrai que c'est pas forcément simple. Mais bon, ça donnerait une bonne explication.
Bon, ben, on va suivre tout ça, bien évidemment, sur le Giro. On va te remercier, Stéphane, d'être passé dans Radio Vélo.
Avec plaisir.
Et on te dit à bientôt. Donc, on peut te suivre sur le Twitter, @telochevélo, c'est ça?
Exactement, voilà. Donc, les horaires, chaque jour, avec surtout les horaires en direct et puis les rediffusions, parce que c'est vrai que tout le monde n'est pas forcément devant la télé à l'heure des courses. Donc, c'est vrai que pour ceux qui rentrent à la maison le soir, qui veulent regarder les rediffs, bah, c'est disponible. Voilà.
Très, très, très pratique. Donc, @teloche, ouais, -du-bas vélo. On te dit à très bientôt dans Radio Vélo. Salut, et puis Stéphane. Peut-être à la route du Sud, Stéphane.
À très bientôt. Je ne sais pas si je pourrais y être, mais en tout cas, bon. Le cœur y sera, ça c'est sûr.
Ça marche. À bientôt et bonne soirée. Bientôt. Salut.
Merci.
Merci. À bientôt. C'était donc Stéphane Deneitz, de l'ancien Team Vélo Chrono, et puis de Teloche Vélo, pour parler de... C'était intéressant d'avoir un peu l'œil du local de l'étape.
Ouais, moi je connais bien le parcours là-bas, comme je disais que j'avais fait un chrono, et c'est vrai qu'il l'a très bien résumé. Hein, c'est une étape qui sera très très casse-pâte et très animée pour la victoire d'étape. Voilà, le Gers, on le sait très bien, hein, depuis quelques années qu'ils sont à fond en vélo. Ça a bien pris, et c'est tant mieux, parce que on a toujours eu des belles courses dans le Gers depuis très très longtemps, et ben la première année, quoi, chaque fois la Route du Sud s'y arrête, le Tour aussi, donc voilà, c'est en place dans le Gers.
Ça donne envie, en tout cas, d'être déjà au mois de juin, mais on va profiter du mois de mai avec la présentation de la Ronde de l'Isard. Ça sera et eh bien demain, et puis la Ronde de l'Isard elle-même, la vraie Ronde de l'Isard, ça sera jeudi, vendredi, samedi, dimanche prochain, avec notamment jeudi et vendredi les étapes à suivre en exclusivité, le final dans Radio Vélo avec CETA Radio à partir de 15h, faudra pas louper ça. D'autres infos qu'on va vous dévoiler, on a un petit teaser à vous diffuser, tout ça. La chronique régionale, Mélanie, on a déjà pas mal parlé du régional, décidément, mais il y a d'autres infos.
Ouais, de petites infos, je vais commencer par le calendrier, comme ça ce sera fait. Alors ce week-end, c'est un week-end chargé. Tout d'abord, du 13 au 10, au 15, pardon, le club de VTT de Brassac organise le Brassac X-Cross et le Déballe Tout. Donc en gros, enfin, il y a une descente et un cross-country, si je ne dis pas de bêtises. Et donc c'est aussi notre championnat régional de descente, en fait, donc dimanche. Samedi, autre championnat régional, donc là c'est à Foix, donc c'est championnat de piste. Ce sera la vitesse par équipe, la vitesse individuelle, le 500 mètres et le kilomètre. Dimanche, toujours la cyclosportive, l'octogonale, ainsi que le 6e Grand Prix de Saint-Agnan. Donc là c'est une course ouverte au minime, KD, PC, PCO. Encore dimanche, rencontre des écoles de vélo à Pont-de-l'Arme, donc c'est à côté de Mazamet. Et enfin, donc lundi, donc c'est le Grand Prix des Deux Ponts à Bagnères-de-Bigorre, donc ouvert au minime, KD, PC, PCO. Et donc ensuite, la Ronde de l'Isard.
Voilà, ça c'est pour le programme.
Le calendrier
régional.
Donc ensuite, je voulais juste revenir sur le championnat régional sur piste qui a eu lieu à Villemur jeudi dernier. Donc très beau championnat, avec beaucoup de soleil, il faisait très très bon.
Quelques chutes.
Oui, quelques chutes. Enfin, une surtout. À l'entraînement. Tout d'abord, deux belles performances en poursuite individuelle. Donc la première de Nathan Van de Piet, qui fait un super temps, donc il fait un meilleur temps que le deuxième junior, si je ne dis pas de bêtises. Et ensuite, un très bon temps également du vainqueur junior, donc Clément Delayen, qui nous arrive de l'Aquitaine. Ce sont deux belles chances de médailles pour les prochains championnats de France à hier, puisque bon, Nathan Van de Piet a décidé de s'investir un peu dans la piste, sur la piste. Donc voilà. Ensuite, bon, le scratch, les épreuves sont très très bien déroulées et ont été... Enfin, assez spectaculaire, notamment chez les cadets et les seniors, où là, on a vraiment vu l'aspect tactique, en fait, de cette épreuve. Et bah, ensuite, petite dédicace à Max, qui ils ont fait le triplé en fait avec le team Payname. Donc c'est Alexandre Finos qui a remporté en senior la poursuite individuelle. Michael Mazin remporte le scratch, lui aussi en senior. Et enfin, bah, il gagne la poursuite olympique. Donc tous les quatre, donc Max, Alexandre Finos, Michael Mazin et Achille Métro. Donc ouais. Très très belle poursuite, et tu peux en témoigner.
Non, c'était joli, c'est très très esthétique. En plus, c'est belle couleur bleu clair. Et surtout, utilisons ce vélodrome de Villemur, faut le conserver. C'est quand même, pour moi, c'est du patrimoine local. Hein.
Ouais, c'est clair. Et puis bon, la poursuite, c'est super joli. Quand tu grattes de face, que tu vois qu'un coureur, en fait, ils sont quatre, c'est magnifique. Très, très quand beau. Ça tourne bien, quand c'est bien huilé, c'est.
Et ça gagnerait à développer avec la participation de tous les clubs régionaux dans chaque région.
Ben, le comité, voilà, dans des journées de championnat comme ça, demande, enfin, ils ont mis en place, hein, au niveau du règlement du trophée, que les coureurs viennent participer au moins cette journée-là pour marquer des points. Donc, voilà, ça. Mais il faudrait que la piste se développe davantage sur des réunions comme ils sont fait le samedi.
Et il y a du spectacle. Exactement. On voit tout, en plus. Ah, bah oui. Vu que c'est rond, hein. Non, c'est ovale.
Le président du comité, le président de la commission PIS, bah, se rendu compte qu'il y avait beaucoup de monde jeudi dernier. Mmh. Et l'an prochain, ils vont un peu plus développer la piste à Villemur et ramener un peu plus de compétition. Donc, parce que bon, déjà, c'est central au niveau de la région. Donc,
Alors, certes, ce n'est pas une piste homologuée de 250 mètres, elle fait 450 mètres, mais au moins, c'est pas très loin.
C'est-à-dire, elle est trop grande.
Elle est plus longue. Ouais, les pistes homologuées sont de 250 mètres.
Et elle fait le double quasiment.
Ouais, elle fait 450
mètres. T'as le terrain de rugby au milieu.
Mmh. Quand on fait 2 km ou une poursuite, la ligne droite, elle est longue.
Elle est longue, ouais.
Ouais, mais c'est exceptionnel. Et puis, bon, j'ai fait le test autour de moi. Personne ne sait qu'il y a un stade vélodrome à Villemur.
Non. Bah, comme il y en avait un à Toulouse.
Sorti du milieu du vélo, personne ne le sait. Donc il faut l'utiliser. Bon, je sais qu'ils vont y faire des concerts, mais c'est pas trop ça que je veux dire, quoi. Voilà. Donc, ouais, vraiment, la piste, j'ai trouvé ça très, très intéressant. Et j'espère que toutes les équipes vont s'y mettre, vont jouer le jeu, tous les coureurs. C'est intéressant, Mélanie.
Et dernière info, donc on parlait de la route du Sud. Cette année, ils ont décidé de créer donc la route du Sud cadet. Ce sera une épreuve qui aura lieu le samedi. Donc les cadets de la région, sinon eux-mêmes d'ailleurs, vont faire en fait les 9,8 derniers kilomètres de l'étape. Donc en
un peu de plat et la montée, quoi.
Voilà, la montée du col de
Couraduc.
Voilà, ils partiront un peu avant les pros. Ils vont arriver sur la ligne. Large et tout. Donc voilà.
Forcément intéressant à suivre. Merci Mélanie pour cette chronique régionale qu'on retrouve bien évidemment sur le Twitter, le Facebook du comité. C'est bon, Julien, on était complet. On remercie Jean pour ses petites infos. On suit bien évidemment son blog. Et puis, il nous a donné des nouvelles de son petit protégé aussi. C'est pas le top. Hein.
De Loïc, ouais, qui a dû arrêter sur le sort breton, si je me trompe pas. Non, il fait un petit aparté sur l'épreuve qu'il y a eu à Sébazac, où il y a eu beaucoup de juniors qui étaient au départ. Et il y avait bien longtemps que sur une épreuve junior, voilà, il n'y avait pas autant de coureurs juniors au départ. En fait,
c'est une épreuve test pour nos juniors, donc ils n'avaient pas vraiment
le choix. Ouais, ils n'avaient pas vraiment le choix, mais c'est vrai qu'il y avait longtemps qu'on n'a pas eu autant de coureurs au départ. Voilà, c'était un petit peu le fil conducteur que Jean m'avait envoyé. Voilà.
Allez, parlons de VTT, bien évidemment, avec notre invité Christophe Bremersch qui est avec nous dans Radio Vélo. Christophe qui est avec nous en studio pour présenter la Noble Race VTT 2016, deuxième édition de cette compétition de VTT organisée à Saint-Antonin-Nombleval dans le Tarn
et Garonne.
Et Garonne, Tarn et Garonne, Saint-Antonin-Nombleval, dans la région Languedoc-Roussillon Mini-Pyrénées, dont vous pouvez voter pour le nom au 36-15 région.
Pour faire le lien avec la route, et le Tour de France va y passer cette année.
Va passer à Saint-Antonin-Nombleval sur l'étape qui arrive à Montauban, peut-être. Hein, voilà. Donc ça, vraiment, Saint-Antonin-Nombleval, très joli village, l'un des plus beaux villages de France en plus. Ça sera le 22 mai, Christophe Bremersch qui s'occupe donc de la session VTT du TOAC, un club toulousain, pour le présenter en deux mots.
Oui, c'est le club d'Airbus en fait. Voilà, donc on est 25 VTTistes et puis il y a 65 routiers.
D'accord. Bah, on a l'impression que vous êtes beaucoup plus nombreux parce qu'on en voit souvent des maillots du TOAC, mais
on est présent un peu partout.
Présent et du coup une compétition de VTT, ces compétitions, ces randos, comment on la présente?
c'est les deux qui t'a fait. Alors, en fait, on revient au format qui se faisait par le passé au niveau des cross-country, c'est-à-dire on fait des grandes boucles. Donc, et en même temps, on y fait à tracer une grande boucle, ben, on en fait aussi profiter les randonneurs. Donc, on fait partir les compétiteurs en premier et les randonneurs partent derrière. Comme ça, tout le monde y trouve son bonheur en fonction de sa forme du moment, quoi, pour pouvoir pédaler soit à fond, soit en détente, en regardant les superbes paysages.
Alors, quels sont les parcours? Il y a beaucoup de choix ou...
Alors, oui. Alors, pour la compétition, en fait, il y a deux choix. Il y a 25 km pour les cadets. Et 50 km pour toutes les autres catégories.
D'accord.
Voilà. Et pour la randonnée, ben c'est un peu plus fractionné, on va dire. Donc, ils ont 25, 30, 45 ou 50 km.
D'accord.
Voilà. En fait, disons que chaque fois, ils ont des possibilités de raccourcir à plusieurs endroits le parcours.
Suivant les sensations. Donc, voilà. Un parcours, on imagine, un paysage magnifique.
Ben oui, alors, ceux qui voudraient en savoir un petit peu plus, on a fait un teaser là, qu'on a posté. Ben, je l'ai posté ce matin. Là. Donc, c'est Xavier, un gars du club, qui l'a terminé. Donc, c'est juste quelques petites images pour vous mettre l'eau un petit peu à la bouche.
Où est-ce qu'on peut trouver ce teaser?
Donc, sur le site toac-cyclisme.fr.
D'accord.
Vous allez sur la page La Noble Race VTT. Et là, vous avez après toutes les informations. Concernant les dénivelés, les distances.
Et du coup, comment est venue l'idée de se retrouver à Saint-Antonin-Nobleval? On rappelle qu'Airbus, c'est plutôt sur Toulouse, sur Blagnac.
Alors l'idée, c'est que ben, bon, moi j'habite dans le Tarn-et-Garonne, et avec mes collègues, on roule beaucoup là-bas, et en fait,
il y a beaucoup de circuits, Nico, là-bas, de VTT, oui. Que ce soit des VTT un petit peu descente, enduro, cross-country.
Il y a les circuits labellisés FFC qui sont là-bas. Et puis bon, on est des puristes, on va dire, hein, et quand on voit ce que nous propose le site, ben, on en dit, à force d'y rouler, de s'entraîner, vous avez tout le secteur, donc Saint-Antonin, Bruniquel, Montricou, puis celle-ci, bon, mais quand vous roulez là-bas, c'est le paradis, il n'y a pas besoin d'aller super loin, hein, vous avez tout, hein, vous avez du dévers, des marches, des cailloux, des beaux paysages, des singles, des longues montées, des montées plus courtes, enfin, on trouve vraiment tout, donc on s'est dit, à force de pédaler là-bas, ben, pourquoi pas organiser une épreuve? Alors, il y a souvent des randos dans le coin qui passent par Saint-Antonin, mais qui partent de Saint-Antonin, il n'y en a pas. Alors, il y en aura peut-être plus maintenant, on ne sait pas, on va voir. Et donc, on a dit aussi faire une course avec ce format qu'on remet un petit peu au goût du jour, on va dire.
Oui.
Et qui semblerait attirera peut-être un petit peu plus les foules que le format cross-country olympique. Qui convient à d'autres personnes, il en faut pour tout le monde, c'est bien.
Combien de personnes, du coup, la première édition?
Alors, la première édition, en tout, on a fait 210 participants, dont à peu près 65 compétiteurs.
D'accord.
Bon, il faut se dire que cette année-là, c'était le lundi de Pentecôte, donc c'était un week-end à rallonge. La veille, nous avions les championnats Midi-Pyrénées à Lectoure de XCO, donc il y en a qui ont fait les deux. Bon, quand ils sont venus chez nous, ils ont un peu mal aux jambes, parce que
ça fait
un petit peu mal. Voilà, et puis en concurrence, on avait pas mal aussi, il y avait deux raids, il y avait un raid à Montcuq et un raid à Bringues dans le Lot. Et à eux deux, ils ont drainé 1000 personnes, donc voilà. Donc par rapport au score qu'on a eu, on est assez contents. Nous, ça nous a permis de nous mettre en place pour voir un petit peu au niveau organisation,
oui.
Pour pouvoir gérer. Donc là, on sait ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. On a bien aussi été aidés par les commissaires qui nous ont donné, de la FFC, qui nous ont donné des bons conseils. Donc maintenant, on pense au moins doubler le nombre de participants. Au moins 150 compétiteurs, je pense, et 300 randonneurs, enfin, en fonction de la météo, bien sûr. Là, ça, oui. on n'est pas maître,
bien évidemment. Donc, ça sera le 22 mai du côté de Saint-Antonin-Nobleval. Les infos, on les retrouve du coup sur le site du TOAC.
Sur le site du TOAC, il y a tout marqué, donc toac-cyclisme.fr.
Mélanie, Benjamin?
Il y a le lien sur le site du comité pour aller sur leur site, donc voilà.
Ouais, Julien, Guillaume,
combien de personnes ça mobilise pour organiser? Parce que bon, il y a.
On est 40 bénévoles, donc déjà je tiens vraiment à les remercier, notamment nos amis les routiers qui l'après-midi vont aller faire le championnat sur route FGT, donc ils viennent le matin nous filer un coup de main et l'après-midi
ils partent,
donc voilà, ça c'est très fort. Après on a fait appel à la famille aussi, ouais. Et aux amis, ouais. Même des collègues de travail, certains. Donc.
Belle solidarité. Belle organisation, Guillaume, le VTT, ça se développe.
Hein, ouais, moi je ne suis pas trop, mais c'est vrai que Sylvain, qu'on avait la semaine dernière, qui pratique aussi beaucoup le VTT, je sais qu'il va très souvent du côté de Bruniquel et apparemment.
Ouais, la fameuse 2000 de Bruniquel.
Oui, les paysages sont magnifiques, il y a de superbes pistes. Donc, si en plus le beau temps est au rendez-vous, peut-être une petite question. Combien il y a de ravitaillement? On en parlait la semaine dernière, alors c'était tout à fait différent. Combien vous avez de ravitaillement?
Il n'y en aura pas autant qu'en Oviale, c'est sûr. En tout, donc, il y aura 2 ravitaillements sur le circuit. Donc, ce sera au kilomètre 13 et 34, précisément, plus un ravitaillement plus copieux à l'arrivée pour que tout le monde puisse retrouver les forces. Il y aura aussi, je peux préciser, des zones d'assistance aussi pour les coureurs. Ils auront un plan, il y aura au moins 4 zones d'assistance pour se faire dépanner.
Bon, et voilà. ça promet en tout cas un très beau spectacle. On va remercier Christophe d'être passé donc dans Radio Vélo. Tu voulais rajouter quelque chose, un petit coucou peut-être,
hein? Je vous invite tous à Saint-Antonin le 22 mai. Et un grand merci à Radio Vélo de nous permettre de faire cette promo là pour cette épreuve.
Eh bien, avec plaisir, pas de soucis. Julien, Mélanie, c'est bon, on a tout ce qu'il faut dans la boîte. On se retrouve mercredi prochain pour présenter la Ronde de l'Isard avec Guy Sens, le président organisateur, qu'on aura au téléphone à la veille de la première étape.
Nous serons jeudi déjà à la présentation.
À la présentation, à suivre bien évidemment avec nos amis de Direct Vélo, avec Pierre et Nicolas, avec toute l'équipe Radio Vélo qui sera sur place du côté de Toulouse pour la présentation officielle de la Ronde de l'Isard. La Ronde de l'Isard qui va avoir vraiment une très 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 belle édition avec un plateau de haut niveau qui est en train de revenir au vraiment au top niveau et ça promet en tout cas un très beau spectacle. On suivra les étapes en direct ensemble, les 2 étapes de montagne du jeudi et du vendredi à partir de 15h en live sur CETA Radio. Alors au bureau, pensez à vous connecter quoi. Et du coup voilà, il va y avoir un gros spectacle et les 2 arrivées en altitude, ça sera déjà bien le jeudi et le vendredi.
C'est énorme d'avoir déjà de faire une course par étape dans les Pyrénées, mais en plus d'avoir plusieurs arrivées dans l'altitude. C'est les rêves, quoi. C'est une course. Il manque, je dirais, cette course-là. Pour moi, il manque qu'un contre-la-montre. S'il y avait un contre-la-montre, ça serait vraiment comme on l'avait auparavant, ça serait vraiment une course par étape vraiment au top, quoi.
Ça promet en tout cas, on suivra ça ensemble. N'hésitez pas à nous envoyer vos petits commentaires sur le Twitter, @radiovélo31, le Facebook aussi. N'hésitez pas à venir faire la promo un petit peu de votre course. Si vous avez des idées d'invités, des débats, des choses qui vous font réagir, des questions pour Guillaume, pour Mélanie, pour Julien, pour toute l'équipe, n'hésitez pas. On se retrouve très bientôt, radiovélo.fr, sur cette radio. Ciao.
Ciao, bonne semaine. Ciao.